rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Et bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? C'est parfaitement prêt.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Hola, bienvenue dans ce Canu Info du jeudi 14 mars 2019. Vous êtes à l'écoute jusqu'à 20h de l'équipe du jeudi pour ce Canu Info. Je suis donc avec Laurent, bonsoir à toi.
Bonsoir Delphine.
Nous allons vous parler de plein de choses ce soir, de loups anticasseurs, d'escrocs et de menteurs dans la République, dans la politique lyonnaise. J'en fais des petits lapsus, on ira un petit peu ailleurs, rapidement parler d'Algérie et de Corée du Nord avec les élections. Nous parlerons d'ondes de la discorde, ça sera Laurent. Nous parlerons ni Dieu ni maître avec Monsieur Barbarin et grâce à Dieu. Nous parlerons de voyage de Monsieur Macron au Kenya, nous parlons énergie, environnement, tout ça. Tout plein de choses, mais d'abord nous allons commencer par une petite introduction que je vais vous faire, une fois que j'aurai tenté de me moucher en même temps. Vous voyez, c'est toute une stratégie. C'est vrai que dans cette émission, on n'a pas beaucoup parlé de répression contre les manifestants et les manifestantes ces derniers mois. Mais c'est vrai que pour une fois, on a des médias qui relaient les informations. Là, vous allez me dire, oui, certains relaient mal l'information. N'empêche qu'il suffit de choisir son média, ses médias. Et pour une fois, on a un petit peu des choses qui sortent et qui apparaissent. Ça ne nous empêche pas aussi de voir et de pouvoir relayer cette information, bon là moins fait que d'habitude. Alors on trouve sur les pages Facebook entre autres et sur Twitter de nombreuses vidéos qui démontrent les violences policières et malheureusement ces vidéos sont extrêmement nombreuses, malheureusement parce que nous avons aujourd'hui des policiers hors de contrôle. Alors pour nous il n'y a pas de nuance, hein. Soit on frappe, soit on frappe pas, doucement ou fortement ne change rien, du moment qu'on frappe, on frappe et la France et son gouvernement sont aujourd'hui pointés du doigt pour les violences envers les manifestants et les manifestantes par les instances internationales, mais toute cette violence n'est pas nouvelle, elle est aujourd'hui particulièrement visible, car elle se reproduit tous les week-ends partout en France. Et il faut bien dire que les groupes d'intervention spécialisés comme la BAC sont certainement les plus prompts à défoncer du manifestant. On parle aujourd'hui d'ailleurs de forces de sécurité, après hein, les mots comme la vidéoprotection. On voit que nos politiques savent jouer des mots pour continuer à soutenir les flics. Alors, il paraît qu'ils en ont marre, ces flics, et qu'ils répondent aux ordres. Donc, ces fonctionnaires sont prêts à faire n'importe quoi au nom du respect de l'ordre et des ordres de leur chef. Alors, pour nous, ils semblent surtout incompétents et carrément hystériques, incapables de faire face à des mouvements de foule, parfois des groupes à peine organisés, certains le sont certainement beaucoup plus, certes, mais la perfidie semble régner dans les rangs de ces flics, attaques dans le dos, coups de pied à des gens à terre, lacrymo à bout portant sur des personnes qui fuient, matraquées, gazées, blessées, c'est le quotidien de cette flicaille. Alors c'est sûr qu'il est plus facile de s'en prendre à des jeunes au coin de la rue qu'à des manifestants en colère, c'est sûr qu'il est plus facile de faire du contrôle aux faciès que de subir les assauts de manifestants énervés, c'est sûr qu'il est plus facile de prétendre que les gens les détestent et qu'ils ont la haine, c'est plus facile aux syndicalistes d'Alliance de réclamer des armes non létale, sinon on pourrait utiliser celle qui tue, pensez donc. C'est plus facile de répondre aux questions que de répondre aux questions qui fâchent. À quoi sert la police aujourd'hui? Qu'est-ce qu'être policier? Pourquoi devenir un baqueux? Que veut donc cet État français, son président, ses préfets, ses ministres, ses élus? Alors certes, aujourd'hui, on a des gilets jaunes dans certaines villes qui sont plus les mêmes qu'au départ. Des acteurs habitués aux balades urbaines ont parfois remplacé les manifestants des ronds-points. Parfois, pas toujours. Certes, les manifestants actuels poussent au cul les flics, les harcelant samedi après samedi. Certes, pour certains et certaines, la lutte a changé. Il ne s'agit pas seulement ou plus du tout de faire valoir un RIC, une taxe, un impôt, des revendications, mais bien de répondre à cette violence qui est quotidienne. Alors, cette violence serait-elle là si les forces armées de l'État restaient chez elles, dans ces casernes, ces commissariats? Les flics sont-ils les seuls responsables de cette violence? On pourrait débattre longtemps de cette question, mais par contre, les flics qui sont responsables de la haine, ça, nous en sommes absolument persuadés. Les flics ont la haine des manifestants, la haine des syndicalistes, des femmes, des arabes, des noirs, des lascars, des homos. Je mets trois petits points et on continue. Nous voulons une société, nous, sans CRS, sans bac, sans tonfa, sans flashball, sans lacrymo, sans camion en haut. Donc, non, c'est sûr. On ne peut pas les aimer, nous ne pouvons être qu'en conflit avec cette corporation. Alors aujourd'hui, certes, il faut bien se le dire, s'offusquer ne va pas suffire, il faut changer nos modes de pensée. Parler de salopes ou de petites putes quand on voit des flics est symbolique aussi du problème. Notre société n'évolue qu'en partie, mais eux, c'est sûr, du côté des flics et de elles, les flics, ça n'évolue pas du tout. Très très difficile de faire changer cette police et nous on continue à se demander mais à quoi sert-elle vraiment? Alors combien serons-nous à refuser de voter pour des élus qui s'enchaînent et qui conservent les mêmes pratiques? Oubliez qu'avant l'ère Macron, nous avons eu tout un tas de procédures, de lois liberticides, de ministres de l'Intérieur favorisant la répression, de présidents fiers de dire merci aux forces de l'ordre. Nous sommes loin de faire l'unanimité quand on parle d'égalité, d'antifascisme, de lutte contre le racisme, mais cette police française, elle évolue pas, elle reste raciste, sexiste et violente, et chaque sortie dans la rue en tête d'une démonstration, et l'État ne fait qu'accompagner cette violence, puisque aujourd'hui, elle nous accompagne encore d'une nouvelle loi casseur.
Voilà, c'est cette loi a donc été définitivement votée. Il aura fallu seulement 43 jours au gouvernement pour faire voter par les deux chambres du Parlement, pour imaginer un projet de loi, en fait récupérer un projet de loi qui vient de la droite, le faire voter par les deux chambres du Parlement, c'est-à-dire le Parlement lui-même et le Sénat. Ce projet de loi vise à renforcer et à garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations. Ça, c'est le nom officiel. La République En Marche a reçu le renfort des sénateurs Les Républicains qui étaient coincés puisque c'est eux qui avaient proposé au départ toutes ces idées liberticides pour adopter ce texte. Alors voilà, il n'y aura pas de navette puisque le Sénat a voté exactement le même texte, donc ça ne repasse pas par l'Assemblée nationale. C'est fini, le texte est adopté. Bravo. Je dis bravo, messieurs les assassins de la démocratie. Vous allez me dire, c'est pas la première fois non plus. Alors, bien évidemment, la loi n'est pas totalement validée puisqu'elle doit passer devant le Conseil constitutionnel qui a été saisi par deux entités, l'opposition de gauche, qui paraît logique, et le président de la République. Ah, on se dit, mais pourquoi donc? Alors, on imagine l'idée que c'est un peu de calmer les députés de la majorité qui étaient hostiles à cette loi liberticide, de donner des gages, ce sera bien évidemment symbolique, simplement symbolique, aux instances internationales, aux ligues de droits de l'homme et autres droits de l'hommiste, hein, comme disait Sarkozy et tous ces gens anti-liberté qui ont critiqué la répression, notamment des manifestations des Yellow Jackets, hein, parce que voilà, c'est venu de partout. C'est assez facile de donner des leçons de la part des autres quand on tabasse soi-même sa population, mais c'était de bonne guerre, diront-nous. En tout cas, dans cette loi, des choses réapparaissent ou apparaissent ou sont fixées définitivement, notamment le fait que les officiers de police judiciaire, la flicaille, seront autorisés à fouiller les lieux et les abords d'une manifestation sur demande du procureur. C'est une belle nouveauté puisqu'avant c'était la justice qui faisait tout ça, la justice étant relativement indépendante, les procureurs sont relativement dépendants de l'État, des élus, du président de la République, voilà, bref, ils sont aux ordres. Donc sont concernés les bagages des personnes, mais bien évidemment aussi les véhicules. Dans les faits, cet article de la loi dite anti-casseurs pourra permettre au gouvernement de procéder à des fouilles quand ils le souhaitent. En effet, les procureurs n'étant pas indépendants, ils vont pouvoir décider de lancer leurs bras armés, comme ça, sur les méchants manifestants. Et, bien évidemment, les interdictions de manifestation sont inscrites dans cette loi ONI. Les préfets, alors eux aussi, hein, les préfets, ils obéissent directement à leur hiérarchie, c'est-à-dire au gouvernement et au président de la République. Donc les préfets peuvent désormais prendre des arrêtés motivés pour interdire certains individus de venir à des manifestations, parce que ces individus représenteraient, je cite, une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. C'est à eux d'apprécier la gravité, bien évidemment, ce n'est pas à vous et à moi, ni à la personne concernée. Donc c'est la même chose, ces interdictions jusqu'à maintenant étaient prises par des juges. Et hop, on enlève de la justice, qui est déjà pas le truc le plus génial du monde, mais beaucoup plus que les préfets ou les officiers de police judiciaire. Donc voilà. Grosso modo, le glissement dans le droit qui consiste à se fonder sur des suspicions ou des prédictions que va faire la police, que vont faire les préfets, ça c'est pas totalement nouveau mais quand même un petit peu, puisque ça, la première apparition dans les lois en France récente, ça date de 2017, donc déjà ce gouvernement ONI, sur la loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme qui avait été adoptée à l'époque. Bref. Toute personne interdite du droit de manifester pourra en plus recevoir une convocation de la part de l'autorité que le préfet désignera, donc la police ou la gendarmerie vraisemblablement, en cas de non-respect de l'interdiction de manifestation. Alors vous êtes, vous recevez une petite lettre, vous n'avez pas le droit d'aller manifester, vous sortez, vous approchez un peu de la manif, la peine encourue est 6 mois d'emprisonnement, donc ferme, hein, et 7 500 € d'amende. Vous imaginez, c'est plus que ce que Barbarin a pris pour avoir protégé un prêtre pédophile. C'est pas mal quand même. Hein. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Bien évidemment, c'est rajouté dessus le fameux délit de dissimulation volontaire du visage. Donc que ça soit une dissimulation partielle ou totale, c'est pareil, vous risquez, plus que Barbarin a pris, 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour étaler une manif avec un masque à gaz, par exemple, ou un masque de protection contre les gaz lacrymogènes, ce qu'on voit pas mal avec les manifs des gilets de cette couleur ô combien peu ragoûtante. En tout cas, vraisemblablement, maintenant, tout le monde va pouvoir quasiment, dès qu'on se protège le visage, même avec un foulard, se faire arrêter et risquer ces fameux 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement, donc plus que celui ou celle qui protège les prêtres pédophiles. C'est quand même un truc hallucinant de cette loi ultra-liberticide. Alors, ça introduit aussi d'autres choses qui sont bien pernicieuses et qui sont faites exprès, notamment la possibilité pour l'État d'exercer des recours civils. Ça, les recours civils, c'est de dire, il y a eu des dégradations, c'est de votre faute, même si vous n'avez pas été condamné au pénal, vous allez payer. Et là, l'idée, c'est de faire une double pression, la pression pénale, c'est-à-dire le risque de prison et d'amende, et de devoir payer les dommages et intérêts. Donc une pression financière et pécuniaire importante sur les manifestants. Voilà, la dernière chose qui n'est pas passée, et on y a échappé, c'est le fichier national des personnes interdites des manifestations, à l'image de celles et ceux qui sont interdits de stade parce qu'ils sont hooligans du foot ou d'autres sports ou d'autres compétitions. Ça, c'est pas passé. Par contre, les personnes interdites de manifestations sont inscrites dans un autre fichier, bien pourri aussi, les personnes recherchées. Donc tout ça, potentiellement pendant 3 ans, c'est la classe. On a un grand, grand moment de démocratie. Merci les sénateurs La République En Marche, Merci les députés La République En Marche. Donc, on savait qu'ils étaient ni de droite ni de gauche. Maintenant, on sait qu'ils sont ni de gauche ni de gauche. Et merci La République En Marche, les Républicains et tous les autres là, qui ont voté pour ces textes ignobles.
Alors, avant que tu enchaînes avec tes escrocs et menteurs...
C'est les mêmes.
Oui, j'ai bien compris, qui cumulait. Je voudrais juste... Alors, je sais pas, parce que y a parfois, quand il y a des gens qu'on aime bien, on peut rendre un hommage. Comment on dit quand on veut parler de ceux qu'on n'aime pas, tu vois, c'est l'inverse. Vous voyez, il va dans votre idée. Ouais. Alors, je voudrais parler de Jean Messia. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un gars du Rassemblement National, National, et un vrai de vrai. Je voudrais quand même parce que
vrai de vrai, ils ont tous vrai de vrai. Tu sais,
les il y en a qui portent plus la haine que d'autres, et c'est de la haine dont j'ai envie de parler un petit peu aujourd'hui, quand même, ce Canu Info. Et lui, il la porte bien, la haine. Alors, je me suis baladée sur son compte Twitter. Alors, il gazouille dans la haine, hein, ce gars. Alors, déjà, bon, on peut dire, par exemple, il retweet les tweets de Marine Le Pen. Par exemple, hein, on va parler de l'Algérie tout à l'heure. Monsieur Bouteflika doit rapidement préciser son plan et son calendrier. Une déstabilisation de l'Algérie pourrait entraîner des flux migratoires considérables. Ça, c'était le tweet de Marine Le Pen, il s'est empressé évidemment de le remettre, puisque c'est ce qu'elle a déclaré chez M. Bourdin, là, vous savez, donc Bourdin Direct, hein, la bonne émission qui va bien. Il a fait aussi un chouette tweet, il a repris aussi un tweet de Martial Bild. On nous affirme que les dégâts attribués aux gilets jaunes ont fait 18 millions de frais à Paris en 3 mois. Peut-on dire haut et fort que c'est moins que le coût des émeutes ethniques à Grenoble en 3 jours ? Et dans le silence médiatique quasi complet, et les émeutes continuent.
Les émeutes ethniques à Grenoble ? Mmh. Ah, c'est énorme.
Je vous rappelle que
donc ça veut dire qu'il y a que des noirs et des arabes dans ces émeutes de Grenoble. Il y a personne d'autre dedans parce qu'elles sont ethniques. C'est pas du tout suite à la mort de
petits jeunes. C'est un terme qui, je pense, cache plein de sous-entendus à l'arrière.
Ah ouais, c'est un truc ultra raciste.
Alors, parce qu'en fait j'en ai trouvé un superbe.
Ils sont bons quand même.
D'hier. Pardon, il en avait déjà tweeté un vieux qui était. Oh, je vais le terminer par celui-là à la fin. Ouais. Alors, il a tweeté hier, il y a un truc que je pige pas. Alors, monsieur Jean Messia commence souvent ses tweets par il y a un truc que je pige pas. C'est une méthode.
Oui.
Il y a un truc que je pige pas, point. Oui, s'il n'y a pas de point d'interrogation. Oui. Pour un accident, le gouvernement interdit tous les Boeing 737 MAX en France. Tout est en majuscule. Donc, il crie fort bien. Alors, pourquoi ne pas interdire toutes en majuscule, immigration dès qu'un migrant commet un attentat meurtrier. Pourquoi le principe de précaution ne s'applique jamais à l'immigration ?
Putain, on va lui expliquer que techniquement, les avions sont quasi identiques, construits de la même manière, et que tous les êtres humains sont différents les uns des autres, camarades.
Alors, j'ai des gens qui lui ont répondu ça, je te rassure, et il y en a plein d'autres qui lui ont répondu tout plein de trucs. Qui se moquent de fait qu'il n'est pas né Jean. Il a francisé son nom. Non, mais il faut le savoir. Monsieur explique qu'en fait, il est devenu français, donc il s'adaptait à la France. Et c'est comme ça qu'il peut envoyer est né au Caire, qu'il perd copte et tout, et qu'il explique que c'est comme ça que lui est un vrai français, c'est qu'il s'est accordé à la France. Il lui est rentré dedans. Et alors, donc, je vais terminer par une bonne question que vous allez pouvoir débattre ce dimanche. Parce que Jean Messia a quand même des bonnes idées, il faut le dire, dans le débat, j'entends. Dire que le nationalisme, c'est la guerre, est au mieux une ânerie, au pire de la propagande. Dans les années 30, en Europe, seule la France et la Grande-Bretagne étaient des nations. Les autres pays étaient des empires, entre parenthèses, Reich. Les deux nations étaient pacifiques, les empires bellicistes.
Ça, c'est bien une belle réécriture, hein.
Voilà. Vous avez 2 heures donc pour débattre autour de la table ce dimanche entre l'apéro et le fromage. Voilà, j'avais envie de vous faire connaître ce monsieur parce que le Front National que Madame Marine Le Pen tente de dédiaboliser, comme on nous a appris, est en fait rempli de ce genre de bonhomme.
Bon, des fachos quoi. Allez, on va en poursuivre avec...
Des racistes, des fachos, oui. Tout. Vas-y, là, tu mets toute la liste.
Avec les Républicains, donc le parti de droite française, qui, et là on va parler de la branche... Le groupuscule lyonnais, vous appelez ça comme vous voulez, puisqu'ils sont montés au créneau hier. Ils ont fait part officiellement devant des journalistes avec une conférence de presse de leur opposition totale à l'augmentation des tarifs du réseau de transport lyonnais, les TCL. On se dit, putain, qu'est-ce qui leur arrive ? Donc, je cite, « Les transports ne sont pas accessibles à tout le monde aujourd'hui. Le prix à l'unité du ticket est beaucoup trop élevé. » Alors c'est Philippe Cochet, le maire très à droite de Caluire-et-Cuire, qui dit ça. Bizarrement, son parti a voté quand même les dernières augmentations, toutes les augmentations quasiment du Citral, et notamment les 2 dernières. Mais il condamne comme ça. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il y a au niveau des Républicains ? Il y a un changement de paradigme. On se dit, les transports en commun, c'est bien, tout ça. Ou c'est juste un mensonge électoraliste ? Bon, en fait, vu ce qui s'est passé dans la conférence de presse, bah, c'est la deuxième réponse, la deuxième proposition qui est la bonne. Puisqu'ils n'ont fait aucune proposition sur les transports. Hein, on attendait un truc, on se dit... Non, non, ils ont dit, attendez, en fait, on va faire un tract. On se dit, ça, ils ont découvert le tract. Mais pour faire le tract, on va faire un site internet sur les mobilités et on va demander aux gens de se positionner. On se dit, ben, ça veut dire quoi? Vous êtes trop débiles pour réfléchir, regarder tous les articles qui existent, toutes les études scientifiques qui existent sur la mobilité et adapter à vos idées et sortir un truc qui intéresserait les Lyonnais? Ben oui, ils savent pas faire les gars, ils savent plus faire. Bon, ils sont complètement perdus. On aura compris que, comme il n'y a pas de proposition, c'est de la manœuvre de la politique politicienne. Et le seul objectif de tout ça, c'était d'énoncer le bilan de leurs ennemis jurés. Je cite Gérard Collomb et David Kimmerfeld, puisqu'ils sont acharnés sur eux pendant la conférence de presse. Voilà. En plus, ils ont oublié de dire, parce qu'ils ont bien beaucoup, ils ont beaucoup parlé du ticket à, voilà, à 2 euros dans les bus. Je ne sais plus à combien, d'ailleurs, il a monté un peu. À 64 euros l'abonnement. On rappelle quand même que 95% des abonnés payent 32 euros. Et pas du tout 64 euros. Il n'y a que 5% des abonnés qui payent le plein tarif. Les autres ont des tarifs réduits ou les fameux 50% payés par les employeurs.
Puisque ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui paye.
Les employeurs, oui, mais ils parlent de, ils s'en foutent des employeurs.
Oui, là, mais il y a quand même quelqu'un qui
c'est
donne
un truc électoraliste.
Enfin,
oui,
je veux dire, il faut bien se rendre
là,
compte de ça.
Là,
c'était
un truc électoraliste. Voilà. Bien évidemment, ils ne parlent pas de la gratuité. Enfin, voilà. C'est juste un gros moment de propagande. Bon. Rien de nouveau, juste de la politique politicienne de la part de ce parti, les Républicains, avec ses ancêtres, l'UMP, tout ça, qui sont complices depuis des années et des années du développement de la pollution atmosphérique à Lyon comme ailleurs, et complices aussi de l'absence de vraie politique des transports accessibles à toutes et à tous, et hein, une politique des transports en réelle alternative à la bagnole. Et ben, ils n'ont jamais porté ça du tout, donc voilà, c'était juste un calcul politique qui ressemble à du mensonge éhonté, tout ça pour s'attaquer à Gérard Collomb et à David Kimmerfeld, qui sont tout aussi coupables qu'eux pour l'absence de politique digne de ce nom dans les transports en commun lyonnais.
Ils sont en campagne, hein, quand même,
tous.
Monsieur Kimmelfeld est particulièrement en campagne. On le voit s'agiter, alors c'est marrant, sur des problématiques très environnementales. Bon, de loin un petit peu, on est beaucoup quand même dans ces histoires de Startup Nation, de French Impact, Fresh Lab et tout ça, quand même, dont on nous a parlé il n'y a pas très longtemps.
C'est pour ça que je vais glisser des mots anglais dans Scan Info pour faire un peu hype.
Pour faire top.
Toi, j'ai
hype.
Dit Yellow Jacket. Toi, on va essayer de faire hype okay. Un peu dans Scan Info.
Bon, c'est très marrant parce qu'en fait. On sent que là, on est quand même en pleine période électorale. On sent que M. Wauquiez aussi s'est lancé dans la machine, puisque là, il essaye de refaire le tour un peu des médias. Alors, il a une bonne nouvelle pour vous, c'est que lui, s'il est élu, il veut baisser les impôts. Bon, il ne se l'explique pas après comment il fait exactement vivre la France. Ah si, il enlève les fonctionnaires.
Voilà, c'est ça, il baisse les services publics.
Mais en fait, même baisser les impôts, ce n'est pas si simple. Hein, ça me fait bien rigoler, M. Wauquiez. Donc lui aussi est en campagne. Voilà, c'est marrant quand même de les suivre et de voir un petit peu comment chacun et chacune essaye de mener sa barque. Mais juste une remarque, tu aurais pu remonter jusqu'au RPR et rappeler qu'ils ont eu un chef qui était écolo, qui voulait nettoyer la Seine pour qu'on puisse se baigner dedans.
Oui, et alors bon, maintenant, il n'est plus en état de se baigner dedans. Mais bon, a priori, ce n'est pas possible tout de suite. Mais l'état de la Seine s'améliore. Quand même.
Ouais, enfin.
Pas grâce à lui d'ailleurs, mais à d'autres.
Alors, on va continuer avec des élus et des élections. On va très rapidement, au cas où vous n'auriez pas tout suivi, reparler de l'Algérie. Donc, en Algérie, les gens sont descendus dans la rue hein, quand même. Ça faisait...
Ils continuent de descendre dans la rue.
Oui, trois vendredis de suite. Là, demain, on attend un quatrième rendez-vous. On vous rappelle que M. Bouteflika a donc annoncé, ou en tout cas les autres.
Des gens ont annoncé à sa place.
Voilà, qu'il n'allait pas briguer un cinquième mandat.
Mais il a annoncé qu'il restait président et qu'il annulait l'élection présidentielle.
Ouais. Alors, il paraît que ce n'est pas illégal ce report d'élection, puisque c'est justifié par la volonté du peuple. Le peuple, il a bon dos. Donc, on n'a aucun calendrier. Hein, on ne sait toujours pas ce qui se passe. Alors, ce qu'on sait donc, c'est que l'élection du 18 avril est annulée. Voilà. Que le Premier ministre, M. Ahmed Ouyaïaï, je ne sais pas le dire, voilà, a été viré. Il est remplacé par le ministre de l'Intérieur, M. Noureddine Belloui, qui s'est retrouvé accolé avec un vice-premier ministre, M. Lamamrana. J'y arrive pas ce soir, j'arrive pas à me relire. J'ai imprimé mes papiers sur du jaune. Vous voyez, c'était peut-être pas une très bonne idée. Et on doit attendre un nouveau gouvernement.
Ça changera sûrement rien.
Non, c'est vrai que j'ai laissé un blanc parce que de toute façon il est toujours pas annoncé, on sait pas combien de temps. Là, il paraît.
C'est toujours issu de ce parti
qui vont pas rester longtemps.
Le FLN, tout ça, donc.
Un an maximum.
Ouais. Ah bah c'est beaucoup un an.
S'ils veulent que les gens descendent dans la rue tous les vendredis, hein, on peut l'envoyer quelques gilets jaunes, ils verront. C'est très sympa. Bon, il paraît qu'ils vont mettre aussi, je paye, il paraît parce que c'est que du il paraît, hein, qu'ils vont mettre des jeunes et des femmes.
Oui.
Il paraît que ça va comme ça faire rentrer les manifestants et les manifestantes chez eux et chez elles. Donc on attend, demain évidemment il y aura une autre manifestation, il y a eu beaucoup d'étudiants et d'étudiantes dans la rue qui sont un petit peu aussi en colère parce qu'on a avancé les vacances, histoire d'empêcher des regroupements, vous voyez, parce que des étudiants et des étudiantes c'est un peu bête, paraît-il, et que ça ne peut se retrouver qu'à à l'université. Donc on a annulé les cours, comme ça on s'est dit, bah, comme ça ils peuvent pas se voir, hein, c'est plus pratique. Bon, apparemment ça marche pas bien, puisque là il y a eu des manifestations mardi, mercredi, enfin voilà, les gens continuent à descendre dans la rue, les enseignants. Bon, voilà. On attend la suite, mais pour autant dire, là, il n'y a pas la démocratie en Algérie. Hein. Le média qui vous raconte le contraire, c'est pas vrai. Hein, voilà. Et alors, un pays où il n'y a pas trop la démocratie, mais c'est plus pour en rire, mais voilà.
Il y avait des élections.
En Corée du Nord.
Ouais.
Ouais. Des élections.
Des vraies élections, quoi. Un truc
alors,
où... T'as les résultats, là ?
Oui. Je ne sais pas si c'est vrai. On va enlever le mot vrai. Il y a eu des élections, c'est donc des élections législatives. Il y a eu un score de 99,99% de participation.
C'est la classe, moi je dis. Ça, c'est de la démocratie. Tout le peuple participe avec plaisir. Ah non, pas avec plaisir, par obligation.
Alors,
ça sent pipoté, tu veux dire.
C'est un chiffre qui est intéressant, mais on va y revenir à ce chiffre-là après. Non, ce qui est plus intéressant, c'est le 100% des voix obtenues par les candidats des 687 circonscriptions.
Oui, mais il n'y avait qu'un candidat à chaque fois.
C'est ça. Alors, il est choisi par le parti pour se présenter tout seul ou toute seule dans sa circonscription. Les gens sont obligés d'aller donc au vote. Hein, c'était dimanche. On les accompagne. Il paraît que d'ailleurs, ils savent exactement quand ils doivent se pointer et qui c'est qu'il y a devant et qui c'est qu'il y a derrière dans la file, puisque tout est bien organisé. Ah, l'ordre. En Corée du Nord. Alors, c'est des élections législatives qui ont lieu tous les 5 ans pour désigner les membres de l'Assemblée suprême du peuple. C'est un machin qui sert à rien. Alors, si, ça vote un budget et ça entérine les décisions du Parti des Travailleurs. Ouh, tension le pouvoir. Hein. Alors, c'est comme ça qu'on se retrouve après avec des députés en habit militaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images, c'est toujours très impressionnant. Ben, c'est des gens qui ont été élus. Pas pour de vrai, donc. Hein, oui. Vous l'aurez compris. Alors, pourquoi ce chiffre de participation, il est important et pourquoi il n'est pas de 100%? Parce qu'apparemment, d'après les analyses...
Il y a des gens qui sont morts entre-temps. Non,
c'est que ça leur permet de savoir qui s'est barré.
Ah oui, comme ça, ils se disent, putain, lui, il n'est pas allé voter. Ah bah oui, donc il n'est pas mort, mais il est du coup plus en Corée du Nord.
Voilà.
Ah, c'est marrant.
C'est un moyen de contrôle. C'est-à-dire que les élections sont un moyen de contrôle. Vous n'y aviez pas pensé hein, à ça. Eh ben voilà. Eux, ils l'ont fait. Ouais, magnifique. Hein. C'est la famille des Kim. Alors, il paraît, d'après l'agence sud-coréenne, l'AFP locale, que. Alors, les analyses qu'on en fait, c'est que ceux et celles qui se retrouvent sur ces petits papiers, il paraît que tu as le droit de barrer, en fait, le papier, mais que personne n'ose le faire parce que c'est.
Ouais.
Voilà, t'es pas fou non plus, quoi. Vas-y, on va pas mourir. Il paraît qu'il y a sa sœur qui figure parmi ces nouveaux élus, donc c'est aussi, voilà, ça marque un petit peu quand même cette emprise de la famille des Kim, où non seulement il a fait le ménage, il en a tué certains, d'autres ont disparu. Hein, on se souvient de Tonton, qui. Exécuté. Et là, c'est sa sœur hein, qu'on a vu apparaître quand même sur certaines photos, qui donc a été placée. Donc c'est aussi un moyen de placer des gens et peut-être de repérer aussi qui est en bon terme avec la famille Kim et qui pourrait peut-être un petit peu s'imposer par la suite dans l'entourage de ce brave Kim. Voilà, un exemple à suivre, donc la Corée du Nord.
Nous allons faire un petit point science maintenant.
Ouh.
Oui, on va parler de ce journaliste américain dont j'ai déjà perdu le nom, Malcolm Head, qui a relancé la polémique sur les potentiels risques pour la santé des technologies sans fil. Et notamment du Bluetooth, ce qu'on a jusqu'à maintenant pas trop parlé. Alors il s'est basé sur une pétition qui avait été adressée aux États-Unis, aux Nations Unies et à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, il y a un petit moment, en 2015, et qui a été réactualisée cette année. dans cette lettre, les scientifiques, alors ils sont 247 scientifiques issus de 42 pays, mais c'est pas très clair leur spécialité et leurs compétences, hein, quand même, ça ressemble à un gros fourre-tout. Mais bon, ils ont fait part de leurs préoccupations autour, je cite, de l'exposition omniprésente et croissante aux champs électromagnétiques générés par les appareils électriques et sans fil. Donc ils rappellent que il y a des risques sûrement de cancer, de stress cellulaire, etc., etc. Peut-être d'apprentissage aussi, enfin des choses comme ça. Le problème, car il y a un problème, c'est que rien n'est démontré réellement scientifiquement. Donc c'est un peu facile de faire une lettre comme ça qui relance la polémique sur les ondes nocives pour la santé, mais ce serait bien d'aller un petit peu plus loin. Parce que si on regarde les instances, notamment l'INRS en France, l'Institut National de la Santé et de la Sécurité au Travail, eux, ils disent rien du tout sur des dangers réels potentiels. Ils ont noté des effets sensoriels, du style vertige, nausée, troubles visuels, mais sans conséquence. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, donc, qui a analysé 25 000 articles, hein, quand même, c'est plutôt pas mal, dit que les connaissances progressent, elles sont bien meilleures que dans d'autres domaines, notamment sur les produits chimiques qui ont des impacts aussi très négatifs sur la santé. Et eux, ils disent, non, c'est pareil, on n'a pas de preuves de dangerosité. Donc, le débat sur les dangers des ondes électromagnétiques est relancé, il n'est pas prêt de s'arrêter, mais celles et ceux qui veulent parler de ces dangers, il faudrait à un moment amener des informations scientifiques dignes de ce nom, parce que sinon ça ne va pas avancer. Ça ne sert à rien qu'un journaliste, comme ça, pour se faire mousser, ressorte des infos. Ça ne sert à rien que des scientifiques remettent comme ça devant en disant « on se préoccupe ». Si vous vous préoccupez, les gars, vous êtes 247 scientifiques, vous prenez main dans la main et vous montez des études sérieuses pour vérifier si c'est dangereux ou pas. Et ça sert à quoi qu'un scientifique il dise j'ai des doutes? Si t'as des doutes, on sait comment ça marche la science, tu fais des études, tu regardes et une fois que t'as une conclusion, t'en parles de ta conclusion, tu balances pas des trucs en l'air comme c'est fait actuellement. Il y a une grosse propagande sur les ondes dans des milieux écolos, etc. Il n'y a pas de preuves réelles, même si les personnes très sensibles aux ondes sont reconnues par la médecine pour les effets que ça pourrait induire, c'est les effets qui sont reconnus et pas les conséquences, pas l'origine, parce qu'on la comprend pas.
Les causes, tu veux dire.
Du tout. Les causes, on les comprend pas du tout. Donc voilà, faites pas avancer les choses comme ça en balançant des infos qui sont dignes de Russia Today ou de n'importe quelle fake news. Amenez du concret, sinon ça ne sert à rien. Et on en est là aujourd'hui de la problématique des ondes électromagnétiques. Bien évidemment, on est envahi par les ondes électromagnétiques, vous imaginez même pas à quel point, même si les quantités d'énergie sont très faibles, il pourrait y avoir un danger. Si vous avez peur, vous coupez le wifi chez vous, n'avez pas de téléphone sans fil, vous n'utilisez pas de portable, mais grosso modo, on est noyé dans un monde d'ondes depuis très longtemps, c'est pas récent, même si il y a eu une augmentation récente, notamment des quantités d'énergie portées par ces ondes. Si l'impact avait dû être très important, on l'aurait déjà vu. Après, sur le très long terme, peut-être, mais tant que personne ne le démontre, on ne va pas non plus vivre sans communication sans fil, sans Radio Canu, puisque nous émettons aussi en ondes hertziennes, des longueurs d'onde qui sont les mêmes, quelquefois, pas toujours. Ça m'énerve toujours ces polémiques autour de ces choses sans justification scientifique. Je le répète, celles et ceux qui veulent parler de ça, amener des éléments scientifiques dignes de ce nom, sinon ça sert à rien de polémiquer dans le vide.
Pourtant, voilà. Ça serait vraiment bien qu'il y ait des vraies enquêtes, parce qu'effectivement, elles sont pas. Enfin, c'est quelque chose.
En fait, il y en a plein. Le truc, c'est qu'ils ne démontrent rien.
Oui.
Donc, ils ne démontrent pas la dangerosité, pour l'instant, dans les vraies enquêtes.
Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'effectivement, quand des gens qui estiment être sensibles et donc gênés par ces ondes cherchent à s'isoler, c'est impossible. C'est-à-dire que.
On est dans
C'est très compliqué, parce que tu peux éteindre peut-être toi ta box et ton Wi-Fi, du moins. Il y a toutes les chances que tu aies celle de tous tes voisins. Faites le test avec vos téléphones, vous l'avez déjà certainement tous et tout fait. Quand vous regardez les Wi-Fi chez vous, il y a toutes les chances que vous arriviez à capter ceux des voisins. Puis, dans un peu peu près tous les immeubles, ça marche. Quand vous passez devant les commerçants, ça marche aussi. Voilà, c'est quelque chose sur le Wi-Fi qui est impossible à échapper, hein, soyons très clairs.
Mais chez vous, il y a une astuce, ça s'appelle une cage de Faraday.
Ouais, voilà. Enfin l'astuce,
vous reliez
pardon, quoi.
Un truc grillagé
ouais, super.
Voilà, à la terre. Et ensuite, vous vivez dedans et vous avez une vie super merveilleuse. Bon, bref, je continue dans les choses irrationnelles et nous allons faire une petite rubrique ni Dieu ni maître. On va commencer par parler de l'Australie qui a enfin condamné le cardinal Pell, reconnu pour des crimes pédophiles. Donc il a été condamné. Alors, les personnes qui ont assisté au procès ont eu du mal un petit peu, notamment de voir ce cardinal australien ne manifester aucune émotion lorsque les scènes ont été détaillées, notamment scènes de viol. Et les attentats à la pudeur, il ne bouge pas, il ne dit rien, il ne ressent rien, on a l'impression que voilà, qu'il se croit au-dessus de tout ça. Bon, bref, heureusement, ce cardinal de 77 ans a été condamné à 6 ans de prison, dont presque 4 ans ferme. C'est presque pas beaucoup, dirons-nous, pour un viol, quand même. Moi, je trouve, même si j'ai pas envie de mettre les gens en prison. D'ailleurs, il y a eu des manifestations devant le tribunal, hein, parce que ça a pas plu. Ça a pas plu, notamment au père des victimes, hein, notamment le père d'un des deux enfants violés, un enfant de cœur qui a été violé et qui est sombré dans la drogue. Alors, ils estiment qu'il y a un lien direct, ce qui est une probabilité importante. Et il s'est suicidé il est mort d'une overdose en 2014. Donc, pour ce père, le prêtre est réellement responsable de tout ça. Et finalement, 6 ans de prison pour avoir tué ou fait mourir quelqu'un, c'est assez faible, la condamnation. Mais bon, les condamnations progressent. De notre côté, le cardinal Philippe Barbarin va être reçu au Vatican, puisqu'il a, on rappelle, dit qu'il voulait remettre sa démission au pape. Il sera reçu lundi prochain à 10h. C'est le diocèse de Lyon qui l'a révélé. Après ses 6 mois de condamnation avec sursis, le risque, c'est que le pape démissionne pas, enfin, n'accepte pas la démission, notamment, on le sait, parce que Barbarin a fait appel, ce qui est la honte suprême de ne pas assumer les faits. Donc voilà où on en est, lundi prochain à 10h, ou enfin quelques heures après, on aura l'info pour savoir si le pape a accepté la démission du sieur Barbarin. Et du coup, c'est l'occasion de parler d'un film qui est sorti il y a un petit moment, mais qu'on n'avait pas encore vu, qui s'appelle Grâce à Dieu, le film de François Ozon sur l'affaire Prénat, donc qui met en cause directement Barbarin et le père Prénat.
Non, je te laisse faire.
Tu voulais pas en parler ?
Si, il n'y a pas de souci. Non, je voulais juste te dire que nos amis de la causerie...
On en a déjà parlé, oui.
C'est juste ça. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir tout plein d'avis sur le film. Eh ben vas-y.
Techniquement, au début...
Quand quelqu'un commence par vous faire une critique de film en disant techniquement, attention.
Alors, si on appelle ça du cinéma, c'est quand même médiocre au début dans la manière de filmer. François Ozon, je pense, a été bien meilleur cinéaste il y a quelques années. Donc, c'est vraiment plan-plan, de la voix off, tout ça. Et quand le film commence, on se dit 2h15 comme ça, je vais craquer.
Les 20 premières minutes, c'est là où je te rejoins, sont... Ouais. Après,
Nul en tant que cinéma.
Mais en même temps, on n'a pas trouvé de solution, nous, cinématographiques, pour mettre en place. On en a débattu quand même un petit moment ensemble.
Au moins, ils pourraient faire des plans séquences, des trucs au moins qui techniquement tiennent la route plutôt que des trucs.
Mais sinon, en fait, on aurait quand même eu cette voix off.
Oui.
On va pas tout vouloir.
Il aurait pu faire du vrai cinéma. Le truc, par contre, c'est qu'au bout de 20 minutes, à peu près, le film se met vraiment en place avec les gens qui jouent, les témoignages, et là ça te prend à la gueule, hein, y a pas à dire, ça te prend plus de partout d'ailleurs, tu rentres dans le système, tu comprends les gens de la parole libérée qui vont se battre contre l'institution, qui vont se battre pour faire changer les choses, et c'est prenant du coup quand même jusqu'à la fin. Après on décroche pas, c'est sur le fil de rasoir, on sort, on croise un prêtre, on l'égorge, non mais je dis ça en rigolant, mais
J'espère bien.
Mais je veux dire, ça touche vraiment. On est vraiment touché par ce qui se passe, et le but, c'est pas de descendre l'Église catholique, c'est pas un film anticlérical, puisque dans La Parole Libérée, il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés et croyants et catholiques. Mais le père Prénat est joué monstrueusement bien par un pauvre acteur. Je suis désolé pour lui, mais il fait ressentir de la haine à tout le monde par sa manière de se comporter, qui est a priori la manière réelle du père Prénat, hein, de toujours assumer, de dire tout ce qu'il a fait. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. avec une espèce de distance qui ne peut déclencher que le mépris minimum face à cet être presque pas humain, finalement. Donc voilà, le film fonctionne super bien grâce à tout ça, grâce à l'histoire, grâce aux témoignages qui sont retranscrits, aux acteurs qui sont énormes, moi je trouve, ils sont incroyables. Ces acteurs, que ce soit le petit bourgeois lyonnais jusqu'à ce gars un peu camé, un peu cramé par la vie, par l'histoire, par tout. Voilà, je trouve le film, au final, est vraiment super bien, alors que ça partait quand même très très mal, enfin c'est mon avis.
Oui.
Tu dis rien, toi, t'as pas
non,
envie
parce
de
parler. Que je suis... si, mais je suis bien d'accord avec toi. Voilà, c'est un film à voir.
Un film nécessaire, quand même.
Qui est effectivement nécessaire, qui... Faut pas oublier que c'est un film aussi, c'est-à-dire que...
C'est pas... Tu veux dire totalement la réalité?
Ouais.
Enfin, on sait pas bien.
Mais en fait, voilà, c'est... Non, mais rappelez-vous juste que voilà, c'est un film, et ne sortez pas en pensant que tout ce qui est dit est vrai et que ça s'est passé comme ça. Même si on sent que François Ozon a voulu aussi raconter l'histoire d'hommes au plus près. Il y a une certaine sensibilité, il y a beaucoup de dignité, et je trouve ça, moi, plutôt beau, et qu'effectivement, c'est pas un film contre le catholicisme, l'Église en tout cas.
Bah, c'est contre l'organisation
en
elle-même.
Mais voilà, ouais. Mais c'est contre ses pratiques, sa hiérarchie, et tout ça est assez bien démontré, et je pense qu'effectivement, à Lyon, ça a un écho extrêmement important. Ça, il faut bien le dire. Moi, je voudrais, alors, comme on a un peu de temps, je crois, aujourd'hui, je voudrais juste vous inviter à aller voir un autre film qui s'appelle Les Éternels. Un film chinois, tout aussi long, 2h15.
À l'opposé.
Rien à voir.
Un film cinématiquement.
Très, très beau.
Très beau. Alors, pour le coup, il y a une scène au milieu d'échange entre deux personnages, les deux personnages principaux, qui doit durer peut-être 10 minutes, voire un quart d'heure, en plan séquence.
C'est magnifique, ouais.
Un truc d'une beauté technique et qui, du coup, fait ressortir le dialogue entre les deux personnages. Ça fonctionne incroyablement bien, c'est un très très beau film.
Alors c'est un film de Xia Zhongke, aujourd'hui j'ai du mal avec les noms, hein. Excusez-moi.
C'est pas facile.
Sa comédienne principale et son comédien principal, Zhao Tao et Liao Fan, sont absolument fantastiques. Alors de quoi ça nous parle, Les Éternels? Les Éternels, déjà, c'est un film qui va se passer sur deux décennies, entre la fin des années 90, le début des années 2000, on ne sait pas tout à fait au début, jusqu'à 2010. 18, on suit cette femme.
En fait, on suit une relation entre deux personnages.
Oui, alors moi, pour moi, on suit d'abord l'histoire d'une femme,
c'est vrai.
Voilà, qui est pimpante, joyeuse, la maîtresse du petit mafieux local, de cette petite pègre. En Chine, qui n'est pas la pègre à costume scintillant comme on peut parfois nous montrer dans un certain cinéma ou dans des émissions un peu tape à l'œil. Ça se passe dans la région de Datong, qui est une ville extrêmement industrielle, minière, dont d'ailleurs le charbon est en train de se casser la figure, comme l'industrie s'est cassée la figure un peu de partout en Chine, hein, malgré les plans industriels mis en place par les autorités chinoises. Et par amour pour Bin, elle va... se retrouver en prison, je vous dévoile rien puisque c'est le synopsis de départ, et c'est une histoire de couple, de femmes et d'abandon, bien évidemment, donc c'est une histoire d'amour, Les Éternels, et c'est assez incroyable que cette histoire d'amour prenne cette forme. En France, on fait du cinéma d'amour romanesque, ennuyeux. Et là, on se retrouve avec un film d'une force absolument incroyable, parce qu'il ne dit pas son nom, ce film d'amour, alors que c'en est bien un. C'est pour moi vraiment l'histoire de cette femme sur deux décennies, comment elle évolue, comment elle vieillit, et comment la Chine vieillit et se transforme avec elle. Et c'est aussi ça, c'est le déplacement des populations, la baisse de l'industrie, le chômage, les transformations sociales, les transformations politiques du communisme en Chine. Et tout ça accompagne l'évolution de cette femme avant la prison et après la prison, et c'est un très beau film avec un très beau cadre cinématographique, comme tu l'as dit. Ça, c'est déjà autre chose par rapport au film Grâce à Dieu. Et puis moi je trouve ça, c'est un très beau film sur l'évolution de la Chine. C'est vraiment à voir. Ça joue toujours, hein, cette semaine au cinéma dans les salles à Lyon. Voilà, profitez-en parce que c'est pas souvent qu'on voit des films chinois comme ça. On, voilà, on n'est pas obligé d'avoir des films chinois en costume.
Oui, et puis ça casse les codes de l'histoire romantique.
Ouais, tout à fait.
C'est vraiment très déstabilisant la relation qu'elle peut avoir dedans avec son Bin.
Ouais.
Le film est beau, ça prend son temps, c'est très calme.
Il y a une scène de baston absolument terrible.
C'est un peu dur au début.
Ouais, et pourtant, voilà, et c'est un film qui casse aussi les genres
et
les codes.
C'est assez incroyable.
Et cette actrice est absolument fabuleuse.
Lui aussi, Bin, il est pas mal.
Ah oui, il a aussi une gueule.
Pourtant,
il a une gueule de cinéma.
À des moments, il est méprisable et méprisant et tout ce qu'on veut, et il le fait très bien. Quoi.
Mais voilà, c'est les personnages qu'on a envie quand même de suivre et dans ce parcours de 2h15. Voilà, ça s'appelle donc Les Éternels, et c'est un film chinois et c'est à voir.
Ouais, il n'y a pas que Captain Marvel qui met en avant un personnage féminin dans les films.
Vous pouvez quand même aussi aller voir Captain Marvel, que nous avons vu aussi, on doit vous le dire.
Qui s'est pas mal fait critiquer par les machistes américains. Du coup, c'est une raison supplémentaire d'aller se détendre avec une héroïne féminine.
Bah, c'est aussi, pour une fois aussi que quand on est gamine, on peut enfin avoir une nana qui, notons-le, est à l'origine des Avengers, de tout, quand on en croit ce film.
Bah oui.
C'est ça aussi
la
force.
C'est elle qui a inspiré, en fait.
Eh ouais, mais voilà, c'est aussi ça, cette force-là. Et c'est ça que n'ont pas aimé certains lecteurs de comics aux États-Unis d'Amérique. C'est d'un seul coup, on la met au centre d'une activité Marvel, des Avengers, de toute une histoire, de toute une époque, et ça n'a pas du tout plu. Les comics étaient... pas aussi bien que ça, parce que Captain Marvel, elle s'est fait trimballer d'un truc à un autre, donc c'était pas si simple de la ressortir, donc ils ont été chercher une héroïne, hein, il faut bien le dire, hein, dans les studios hollywoodiens, on a été chercher une héroïne et on l'a transformée pour en faire un truc qui énerve les abrutis, je vais le dire poliment. Voilà, donc c'est vrai qu'y aller avec vos filles, c'est bien, ça peut aussi leur plaire d'avoir de la baston avec une nana, quoi. Et qui n'est pas à moitié à poil. Voilà. Je le dis parce que.
Ouais, même si elle a une tenue près du corps quand même.
Ouais, mais enfin, pardon, mais chez les Avengers masculins,
oui, c'est pareil.
Des trucs.
Ils ont beaucoup en collant quand même.
Voilà. Donc voilà. Mais pour une fois, c'est pas Lara Croft et tout ça avec des shorts.
Non, c'est. Du coup, c'est une vraie héroïne féministe.
Mais vous n'êtes pas obligé d'aimer non plus ce genre-là, mais vous voyez, on est capable d'aller voir Grâce à Dieu, Les Éternels et Captain Marvel. Et d'avoir une culture variée.
Allez, c'est à toi de parler de Monsieur Macron qui fait du tourisme en Afrique.
Du sujet. Alors oui, Monsieur Macron est donc en voyage d'affaires. Il a mis.
Ah, c'était pas du tourisme.
Non.
Il est revenu. J'ai cru, moi.
Il a donc mis sa plus jolie cravate et son plus joli costume et il est allé chercher du contrat. Alors, le Kenya, je vous repose un petit peu comme ça, 48 millions d'habitants, 6% de taux de croissance, une économie basée sur les services et l'agriculture, essentiellement, pour 50% et 30% pour l'agriculture. Le Kenya a lancé un grand plan, qui a un nom, bien évidemment, qui s'appelle Vision 2030. Alors, il existe depuis 2008, donc on rigole pas, ils ont jusqu'à 2030. Il faut prendre son temps dans la vie. Alors, le plan, il veut faire quoi ? Il veut... industrialiser le pays, puisque voilà, service et agriculture, donner un niveau d'éducation, c'est plutôt pas mal, dans l'idée. Parler d'environnement, tout ça. Donc c'est un grand plan, et évidemment, là, M. Macron s'est dit, il y a un truc à saisir.
Il y a du business à faire.
Il y a du business. Et alors bon, quel pays est le premier partenaire du Kenya ?
L'Angleterre. Les États-Unis d'Amérique.
T'as le quiz ? Ah, t'as encore eu droit à une dernière réponse ? Mais non, quel est le pays qui est très présent en Afrique ?
Mais la France.
La Chine.
La Chine, ah bah oui. Pour le coup, le Kenya est en dehors de la zone d'influence française, issue des anciennes colonies. Donc, il y a un marché effectivement potentiel pour les entreprises multinationales françaises.
Aucun président n'est allé au Kenya depuis l'indépendance en 1963.
Ah oui.
Et ouais. Donc, ça se veut historique pour M. Macron d'être allé là-bas. Et donc, c'est la Chine qui est le premier partenaire commercial du Kenya, puis loin devant les autres, comme ça, voilà. Donc, M. Macron, il a pris sa cravate, sa valisette et son costume, et il est allé signer des petits contrats. Enfin, il a accompagné des gens pour signer des gros contrats. Alors, on dit qu'il est revenu avec... Tout n'a pas été signé, mais à la fin de tout ça, quand on aura tout additionné, vous voyez, on devrait être autour de 3 milliards d'euros de contrats.
Donc, en fait, ce mec, il est élu président de la République, payé par la République française, c'est-à-dire l'État, et il va faire le VRP pour des entreprises privées. Oui, ben il est aussi pourri que les autres.
Il fait comme les autres. Alors, ce qui est déjà sûr, c'est qu'on en a pour 2 millions.
Il a vendu quoi ?
2 milliards, pardon. Alors, on a vendu. Nous, la France. Ah, ouais. On y va. Alors, le plus gros machin, c'est un consortium, Vinci Concessions Sogea Satom Méridien. Et là, c'est un contrat de concession de 30 ans pour l'autoroute reliant la capitale de Nairobi à Mossoumite. On rigole pas.
Ah oui, l'autoroute Vinci, on connaît, nous, c'est les péages super chers, tout ça là.
C'est le premier partenariat public-privé donc, pour Vinci là-bas. Et c'est un contrat de 1,6 milliard.
Oui.
Il y a Transdev qui a conclu un protocole d'accord pour la rénovation et le prolongement d'une ligne ferroviaire entre la gare de Nairobi et l'aéroport international. On a l'entreprise Matière qui a la construction de 210 ponts. Pas mal.
C'est beaucoup, oui.
Ouais. Pas qu'ils en ont besoin. Il y a deux centrales solaires attribuées à Voltalia pour 70 millions d'euros. On a une autre centrale solaire avec Total, évidemment, qui là, j'ai pas le montant, c'est en cours de signature. On a GeoGrid Solution, c'est une coentreprise GeoAlstom, qui va construire une ligne à haute tension pour 101 millions d'euros, si j'ai tout saisi. On a aussi après des Schneider Electric, des machins comme ça, voilà, enfin bon, et là, c'est deux centres d'excellence pour la formation professionnelle. On ne sait pas ce qu'on a vendu et pour combien. Et puis, on a aussi un truc avec Airbus Hélicoptère et Airbus DS pour un montant de 200 millions d'euros. C'est un programme de surveillance et d'intervention côtière et maritime. Voilà. Hein, c'est pas mal. Et puis, il y en a d'autres qui vont signer. Alors, on attend BNP Paribas, Danone, des trucs comme ça.
Et on a échappé au pire. Ils auraient pu vendre des centrales nucléaires.
Ben, ils n'en sont pas là tout à fait.
Heureusement. Voilà.
Alors, je vais continuer parce que je ne sais pas si tu vas pouvoir d'ailleurs enchaîner tout de suite avec l'affaire du siècle ou si on le gardera pour un peu à la fin de ton énergie et environnement. Parce qu'à côté de ça, il était au Kenya. Pourquoi ? Pour le One Planet Summit, c'est le programme dédié de l'ONU, dédié à l'environnement. C'était la 3e édition. Il y a eu Paris et New York. Et M. Macron a apparemment beaucoup causé. Dans le micro. En tout cas, c'est ce que veulent relayer les communiqués de presse de l'Élysée. Et M. Macron a dit des belles phrases comme « La jeunesse a raison de s'impatienter. Nous n'avons que trop tardé. »
C'est pour ça qu'il continue de rien faire.
Hein ? Voilà. Ça, je te dis peut-être que tu pourras enquiller, mais je suis pas sûre. Il dit « La seule réponse que nous devons apporter à notre jeunesse, ce ne sont pas des mots, mais des actions. »
Ah, c'est toujours pour ça qu'il fait rien.
Oh, donc il se l'a beaucoup causé, hein, apparemment au Kenya.
Ah, il s'est causé. Hein.
Ah ouais. Alors, donc là, l'idée, c'était de se réunir autour de deux domaines assez précis, les énergies non renouvelables et la lutte contre la déforestation. Et alors, M. Macron, il a dit des trucs très très chouettes. Il a lancé « On doit changer en profondeur notre modèle et remettre l'environnement au cœur de l'économie de marché. Oui. » De marché.
Oui, bah oui, attends.
Il faut remettre la lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité au cœur de chacun des investissements, des choix d'entreprise, des choix de nos pays et de nos villes. Le pognon. Alors, il a défendu le modèle au Kenya, hein, où 75% de l'électricité est fournie par le renouvelable. Il défend là-bas.
Ouais, il défend là-bas. Ici. Alors que la France va bientôt être le pays le moins bon en Europe pour ce domaine-là.
Voilà. Donc il a annoncé quand même, très fier de lui, que l'État français allait contribuer avec... un ajout de 500 millions d'euros à l'Alliance solaire internationale, puisque l'idée à un moment, c'est que le solaire soit pas cher. Et c'est de donner une capacité à des pays en Afrique, qui ont beaucoup de soleil dans certains endroits, de pouvoir se développer avec de l'aide internationale pour du pas cher, et donc d'amener aussi l'électricité un petit peu de partout. C'est pas un mauvais plan, à la base. C'était un plan qui était lancé d'ailleurs à Paris par la France et l'Inde, hein, il faut s'en souvenir, quand c'était Paris pour le climat, là, en décembre 2015. Donc l'idée, c'est de réduire les coûts, tout ça. Bon, la France a déjà investi un certain nombre d'argent, on espère qu'elle va continuer, parce que c'est toujours bien, hein, la solidarité, c'est vrai. Sauf que c'est marrant qu'on aille vanter des choses ailleurs.
Qu'on ne fait pas chez nous.
Et voilà, c'est marrant. Et puis qu'on ne veut absolument pas faire chez nous et qu'on en a tout plein des arguments pour ça. Alors il a dit aussi que la déforestation c'était mal, M. Macron. Bon, c'est bien parce qu'il n'est pas le seul à le dire, alors comme ça il ne prend pas trop de risques non plus en s'impliquant sur cette question-là. Et il a dit, nous avons à bâtir des solutions concrètes pour recréer de la forêt. Oh, il a des idées. Voilà. Et puis il a rappelé qu'il y a des grands bailleurs internationaux, je cite, et des sociétés qui se mobilisent pour bâtir des initiatives en la matière avec des partenaires locaux. Alors là, d'un seul coup, on analyse un petit peu tout ce bazar, ouais. Et on se dit, tiens, le capitalisme réapparaît.
Va sauver la planète.
Et là, moi, tout de suite, ça me fait repenser au French Lab, au French Impact et à la Startup Nation. Vous voyez, tout de suite, je me dis, il y a du machin comme ça derrière. En tout cas, il paraît qu'on a une responsabilité collective, derrière, d'après M. Macron. Voilà. Et c'est là que j'allais dire, et on rappelle donc qu'il y a des ONG qui attaquent l'État français.
Oui, puisque, alors là, on en avait parlé, il y a une grosse pétition, ça s'appelle l'affaire du siècle. C'est totalement inédit que 4 ONG, donc c'est la Fondation Nicolas Hulot, Oxfam, Notre Affaire à Tous et Greenpeace, qui, ça, c'est aujourd'hui officiel, ont attaqué, déposé plainte au tribunal administratif de Paris pour inaction climatique. Donc effectivement, on peut que constater avec ces organisations-là, qui sont pas toujours respectables d'ailleurs, mais qu'on elles ont quand même raison là-dessus, la carence fautive de l'État français contre les problématiques de climat, malgré l'écriture dans la charte de l'environnement de plein de bonnes choses que personne au niveau de l'État ne respecte, ou presque. Alors bien évidemment, il y a très peu de chances que ça aboutisse, hein. Il y a pas mal de juristes qui disent que la problématique juridique et du fait que tout soit trop symbolique et pas assez précis ne devrait pas permettre d'amener des condamnations, et que même, de toute façon, s'il y avait des condamnations, il est difficile de contraindre l'État à agir. On en est là aujourd'hui, mais il y a quand même de l'importance de cette action, même symbolique, qui est l'affaire du siècle et du dépôt de plainte qui a eu lieu donc aujourd'hui. Et pour revenir un peu sur l'environnement en France, on a appris cette semaine, ça devait dater d'hier, qu'on mourrait beaucoup plus des problèmes de pollution de l'air que prévu. Puisque c'est une grosse étude, hein, qui est internationale et qui a été révélée par l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est étude publiée dans un journal qui s'appelle l'European Earth Journal. Donc 4,5 millions de personnes étaient censées mourir dans le monde des problèmes de pollution de l'air. Et bien la nouvelle étude, elle démontre que c'est quasiment le double, puisqu'on a 8,8 millions de décès chaque année à travers le monde, dû à la pollution de l'air. Donc là, on a pété les scores, dirons-nous. Alors c'est confirmé par plein d'études, on le savait déjà, mais là, ça rechiffre, ça redonne un petit peu des chiffres difficilement attaquables. Alors ensuite, on repartage tout ça, on dit qui fait quoi, tout ça, et on tombe sur les chiffres européens. Donc au lieu des 400 000 jusqu'à maintenant acceptés en Europe, on est à 790 000 décès prématurés par an, donc c'est plutôt important. Dans les pays de l'Est sont les moins bons, Bulgarie, Croatie, Roumanie, Ukraine, hein, eux ils ont à peu près 200 cas pour 100 000 personnes qui meurent par an de cette pollution atmosphérique. La France est à peu près à la moitié, 105 cas pour 100 000 personnes. Alors, grosso modo, en France, ça enlève 1,6 années de vie en moyenne à la population, ce qui est quand même déjà beaucoup. Alors, on cite depuis des années les 48 000 morts français dus à la pollution atmosphérique. Du coup, avec les nouveaux chiffres, ça passe à 67 000 morts en France dus à la pollution atmosphérique. Bon, on fait quand même mieux que l'Allemagne, on fait quand même mieux que la Pologne et mieux que l'Italie, mais moins bien que le Royaume-Uni. Donc voilà, alors les morts, hein, c'est très compliqué, je ne veux pas rentrer dans le détail de l'étude, hein, c'est 40% dû à des infarctus dont on estime l'origine liée à la pollution de l'air, 8% d'AVC dans ces morts, et c'est pareil, c'est pas tous les AVC mais ceux qu'on estime responsables liés à la pollution de l'air, il y a des cancers du poumon, des pneumonies et puis d'autres maladies chroniques respiratoires qui au final vont tuer les gens plus rapidement que prévu. Donc voilà, bref, après tout ça, on attend une réaction qui sera bien évidemment nulle. Alors vous pouvez faire un effort, essayer de laisser votre bagnole au garage, voire vous débarrasser de votre bagnole, puisque une grande partie, voire la plus grande partie de la pollution dans les grosses villes est liée à l'automobile, ce qui n'est pas le cas, c'est pas la même chose dans les campagnes, où c'est plus l'agriculture, mais voilà, dans les grandes villes, c'est essentiellement l'automobile. automobile. Et puis pour terminer dans cette rubrique énergie et environnement, c'est un truc qui est sorti du site Basta, du site indépendant là, qui propose des articles intéressants, puisqu'ils ont eu accès, alors ils ont étudié d'abord ce qu'a donné une agence publique américaine sur les exportations d'énergie, et là ils se sont rendus compte, ah mais mince, ils exportent officiellement du gaz de schiste vers la France. Alors que depuis 3 ans, tout le monde fait semblant que la France n'importe pas de gaz de schiste. On rappelle le gaz de schiste ou le pétrole de schiste, c'est la même chose mais sous une forme, c'est deux hydrocarbures sous des formes différentes. C'est des choses qui sont récupérées avec une énorme pollution créée notamment avec la fracturation hydraulique qui est interdite en France, mais nous on est hypocrite, on interdit la fracturation hydraulique en France, mais on achète du gaz de schiste qui est issu de la fracturation hydraulique aux États-Unis. Ça bousille des états complets aux États-Unis, mais on s'en fout, c'est pas chez nous. C'est un peu ça. Alors ils sont allés enquêter les personnes de Basta. Ils se sont rendu compte, par exemple, qu'il y a un navire méthanier qui s'appelle Provalis, qui a autrefois été à Total et qui a été revendu, qui était à Engie, qui a été revendu à Total, qui devait accoster cette semaine à Montoire. Alors, suite à l'article, a priori, il a été détourné ailleurs pour pas que ça se voit. Mais c'est juste pour pas que ça se voit. Et ça vient de Sabine Pass, c'est un terminal d'exportation de gaz de schiste aux États-Unis, qui doit être à la frontière de la Louisiane et du Texas. Et comme ça, tout au long de l'article, on découvre que il y a d'autres bateaux, d'autres méthaniers qui arrivent à Fos-sur-Mer ou à d'autres endroits où il y a des terminaux gaziers. Et que ce gaz naturel importé des États-Unis arrive depuis au moins 2017 en France, mais personne n'en parle. Sont concernées soit les entreprises qui importent du gaz, donc ça peut être Total, Engie, EDF aussi, hein, qui a un port méthanier, soit. Parce que Basta, quand ils ont appelé tous ces gens, tout le monde a refusé de dire si c'était eux ou pas. Hein. L'absence de transparence et de démocratie dans les entreprises, elle est toujours flagrante. Donc Engie, Total, EDF, tout ça, ont fait bouche cousue. Et alors, c'est peut-être eux, et ça pourrait être aussi directement des industriels hein, qui commandent du gaz de schiste. On rappelle qu'il y a une propagande souvent sur le gaz naturel en disant que ça pollue moins que les autres hydrocarbures, ça pollue moins à la combustion, mais sur le cycle global, c'est pareil, voire pire, si jamais le gaz naturel il est issu du gaz de schiste. Donc là, on est encore pire que du pétrole issu d'un forage traditionnel. Donc voilà, grosso modo, en discrète. La France est hypocrite puisque le gouvernement laisse faire les choses. L'importation de gaz de schiste n'est pas interdite, la production en France l'est. Du coup, on a ce gaz hyper pollué qui a bien détruit la planète, mais pas chez nous, qui arrive vraisemblablement dans différents ports méthaniers de France.
Et on va terminer
avec ton festival préféré.
Ouais, avec Tomorrowland Winter. Rappelez-vous que c'est à la base un festival monté par des Belges qui se déroule l'été. C'est un truc énorme, hein, un machin qui existe depuis 2005. C'est un très gros truc avec une très grosse billetterie, tellement grosse d'ailleurs qu'on vous rappelle que ça fait scandale puisque Monsieur Wauquiez
avait donné plein d'argent.
400 000 euros.
C'est quand même pas mal 400 000 euros.
Ah bah quand tu sais qu'on en enlève à plein d'autres. Ouais, ça fait mal, quoi. Donc déjà, il y a de la polémique un petit peu, hein, quand même. Et puis c'est vrai qu'en termes d'environnement, comment dire ? On vous rappelle que là, c'est à l'Alpe d'Huez, à la montagne, donc. Vous savez, le machin qui vous gagne. Alors, tu t'étais posé des questions sur l'organisation de tout ça. Alors, il y a quand même 8 scènes, hein. Voilà.
Ah oui, c'est un gros, gros truc.
Ah oui, oui. Il y a un quartier entier qui a été bouclé. Hein, donc il y a des vigiles, tout ça qui filtrent hein, pour savoir si t'as bien ton petit bracelet de festivalier. Les mauvaises langues, hein, vous savez, les râleurs et les râleuses, là, estiment qu'il y en a un peu marre des camions et des semi-remorques qui ont fait les allers-retours pour installer les scènes et qui vont les faire pour désinstaller.
Bah oui.
Bah oui, parce que ça pollue tout. Qu'il y en a d'autres qui auraient bien aimé que leur station d'hiver, elle reste une station d'hiver de ski. Et pas un machin pour un festival, ça c'est encore des mauvaises langues hein, quand même. Et puis, tout le monde rappelle que donc, alors ils ont eu 36 000 demandes de petits bracelets, hein, puisque c'est des packages hein, qu'ils vendent, c'est pas un billet, hein, c'est un package. On a un festival. Donc il y a 25 000 personnes qui étaient attendues, hein, puisque ça commence là. En fait, ça a déjà commencé, mais en fait, bon, il y a vrai, c'est que sur 3 jours, mais en fait, ça s'étale. Enfin, vous voyez un petit peu le concept. Et il faut rappeler que ces 25 000 festivaliers,
viennent en voiture, en avion, en bus, enfin, un machin qui pollue.
Ben oui, forcément. Non, mais ça, c'est tous les festivals, c'est pas que celui-là.
Oui, d'accord.
C'est juste mais que celui-là, il est moins facile d'accès.
Il est moins facile d'accès. Donc, ça veut dire que c'est quand même... Voilà. Bon, moi, de toute façon, je pense que les gens qui vont au ski, qui me disent « Oh, c'était super, j'ai pris un grand bol d'air, tout ça en y allant en bagnole », il y a un concept derrière que je n'ai encore pas tout à fait saisi, mais on va dire que c'est parce que j'aime pas la montagne. Ce qui n'est pas vrai, mais on va dire que j'aime pas. Et ben oui, c'est plus simple que de vouloir débattre et discuter avec moi. Alors, parce qu'il faut savoir que quand même, après que toutes les scènes se soient fermées, hein, il y a 120 bus qui attendent de ramener ceux et celles qui ne sont pas logés directement sur place. Parce qu'il n'y a pas assez de lits à l'Alpe d'Huez, donc ils les emmènent dans les stations de ski voisines. Enfin, vous voyez. Donc, on fait encore circuler du bus. Mais c'est un concept. Mais apparemment, le concept n'est pas l'environnement. Donc, au Tomorrowland, c'est de s'amuser. C'est un autre concept. Mais quand même, je trouve que polluer la montagne de cette manière-là, c'est moyen, et surtout avec 400 000 euros de fonds publics, alors que franchement, le festival peut se déverner tout seul, quoi.
Eh bien, c'est la fin de ce Canu Info, il est 20h04, nous allons faire un petit agenda.
S'il te plaît.
Alors, on va parler, on a parlé un peu de l'urgence climatique. Demain, c'est une journée de mobilisation chez les lycéens, donc les syndicats lycéens ont appelé une nouvelle fois un vendredi à la grève pour le climat. Donc, il y a une manifestation à Lyon qui part à 14h de la place Bellecour demain. Pour l'instant, ça n'a pas fait boule de neige, hein, on peut quand même le dire. La mobilisation est très très faible du côté des lycéens pour défendre le climat. Il y a un autre appel samedi pour le reste de la population et les lycéens aussi. On sera le 16 mars. Ça partirait à 15h devant le palais de justice Lyon 5e là, du côté de Saint-Jean là-bas. Je ne sais pas comment on peut partir de là-bas faire une manif, mais c'est ce qu'a annoncé. Sinon, il y a une manif pour les violences policières qui est annoncée à 13h.
Contre les violences policières. Parce que pour les violences policières.
Oui. Ouais, ça aurait été drôle.
Pour dénoncer, parce que tu as fait un raccourci de langage, en fait.
Pour dénoncer les violences policières. Au départ, à 13h de la place Guichard, ils vont rejoindre la manif des mecs habillés avec une couleur.
Ah, t'as décidé de t'énerver contre eux, quoi.
J'aime pas du tout le jaune, c'est ma couleur que je déteste. Ah
merde,
le plus,
tous mes
je pense.
Papiers, ils sont.
Oui, ils sont tous jaunes.
Ah, je suis désolé.
Le jaune, c'est horrible. Enfin bon, bref, chacun ses goûts au niveau des couleurs. Hein. Bien évidemment, vous avez le droit d'aimer le jaune. N'empêche qu'il y a une grève officielle interprofessionnelle, pas très médiatisée, ni au sein des syndicats d'ailleurs. Je trouve ça assez faible la mobilisation. Mardi, normalement, il y a grève générale.
normalement, oui.
Normalement, on sera le 19 mars. Il y a une manif, une grosse manif qui est prévue. Départ à 11h30 de la manufacture des tabacs. Là-bas, devant la fac. Là. Voilà, une grève. Ces grèves d'une journée qui ne servent à rien, ça commence à être un peu pénible. Bon, enfin, si vous avez envie de vous mobiliser, c'est toujours une bonne chose. Et puis, on terminera par toujours quelque chose qui a lieu le 19 mars, mais à 19h, dans un bar dans le 7e arrondissement qui s'appelle Les Clameurs, qui est 23 rue d'Aguesseau. Et en fait, il y a une présentation d'un livre et un débat ensuite. Le livre s'appelle « Qui était Kate Austin ?» Quel lien aujourd'hui entre féminisme, anarchisme et paysannerie ? Alors moi, j'avoue que je ne connais pas Kate Austin, mais ça a l'air très intéressant, cette idée de féminisme, d'anarchisme et de paysannerie. Donc voilà, 19h au bar Les Clameurs.
C'est organisé par qui ?
Par Graine d'Anard, un petit groupe d'anarchistes, si j'ai bien compris, parce que anar, ça veut dire anarchiste.
Oh !
T'as vu ? Non, mais... Ça frôle l'intelligence. Hein.
Ça frôle, tout juste.
Donc voilà, sur ce, c'est la fin du Canu Info du jeudi. On se retrouve la semaine prochaine, 19h-20h pour le prochain Canu Info du jeudi. Et demain, à 20h, à 19h plutôt pour le Canu Info du vendredi. Parce que c'est magique, il y a un Canu Info tous les jours de la semaine, ou presque.
Avec une autre équipe donc.
Oui.
Voilà, on vous souhaite une très bonne soirée. On vous laisse pour l'instant donc avec les bandes continues.
Et la prochaine émission devrait être à 21h.
Ciao, ciao.
Bye, bye.